Bienvenue dans le quart d'heure du droit, tous les lundis à 16h et les mardis à 9h15 sur le 99.8 FM et Radio Balise. Radio Balise, la rédaction du Télégramme et le Barreau de l'Orient vous proposent toutes les semaines de mieux comprendre le fonctionnement de la justice, de nos droits et de nos devoirs. Duralex, Sedlex, la loi est dure, mais c'est la loi, et alors autant la connaître. Voici le mantra qui anime cette émission. Bonjour Géraldine.
Bonjour Emmanuel.
Dans cette émission, tu es la voix de nos auditeurs et auditrices qui peuvent nous questionner ou questionner nos invités spécialistes du droit par un mail, question@radiobalise.com ou lorient@letelegramme.com, qui est notre partenaire bien sûr. Et les questions affluent en ce moment.
Mais oui. Plein de questions, on va les poser tout à l'heure, premières.
Allez, aujourd'hui dans ce quart d'heure du droit, nous sommes en compagnie de Maître Guénec, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes avocate du barreau de Lorient et surtout la première avocate que nous recevons dans cette émission. Merci d'être là. Et merci j'ai lu en vous googlisant, puisque je fais ça des fois, que vous êtes spécialisée en droit immobilier, voie d'exécution et droit de la consommation. Alors droit immobilier et droit de la consommation, on voit bien de quoi on parle et nous avons d'ailleurs plusieurs questions dans ces domaines. Mais la voie d'exécution, qu'est-ce que c'est?
Alors, les voies d'exécution, ce sont toutes les procédures qui sont menées par l'avocat pour permettre l'exécution d'une décision de justice. Donc, tout ce qui est saisie, etc., où on doit passer par un huissier, mais parfois aussi par des procédures. Mais c'est également toutes les procédures qui sont menées en amont d'une décision pour permettre justement de préserver les intérêts du créancier. Donc, je vous donne un exemple assez simple. J'ai des clients qui... ont peur d'entamer une procédure parce qu'ils se disent, même si j'obtiens une décision, est-ce que cette décision va être exécutée par la suite? Eh bien, on mène une procédure en amont pour permettre effectivement de mettre un peu cet argent de côté grâce à une procédure dite de saisie conservatoire. Et donc, c'est toutes ces procédures, donc soit de saisie conservatoire ou de saisie immobilière, mobilière ou autre voie d'exécution qui sont l'ensemble des procédures du droit de l'exécution.
Ben merci beaucoup. Alors aujourd'hui, dans ce quart d'heure de droit, vous allez poursuivre, et vous avez en tout cas la tâche aujourd'hui de poursuivre et de nous expliquer comment marche le procès civil.
Effectivement, vous m'avez interrogé pour savoir le déroulement, pour connaître les étapes du déroulement du procès civil. Donc, pour répondre à cette question, il faut tout d'abord rappeler quels sont les contentieux qui sont concernés par le procès civil. Lors d'une précédente émission, on vous a présenté les différents ordres de juridiction, en distinguant l'ordre judiciaire de l'ordre administratif, oui. Avec des schémas. Oui. Au sein de l'ordre judiciaire, on vous a également expliqué que généralement, on distingue le procès civil du procès pénal. Eh bien, le procès civil englobe au sens large l'ensemble des contentieux qui sont soumis aux règles de la procédure civile, qui par opposition effectivement au procès pénal, qui sont régis par des règles de procédure bien distinctes et bien spécifiques. Et le procès civil concerne les affaires civiles, qui donc ont trait au rapport juridique entre les personnes privées et les droits qui en découlent. Je vous donne quelques exemples. Donc, le procès civil peut concerner la contestation du rapport entre des personnes et des choses, le droit de propriété, le droit de passage sur un terrain. Le procès civil peut concerner des procès qui ont trait à des relations entre les membres d'une famille à l'occasion d'une naissance, d'un mariage, de l'éducation des enfants ou encore un décès. On pense par exemple au droit des successions. Le procès civil peut avoir pour objet des rapports d'obligation entre plusieurs personnes. On pense à un crédit à la consommation, crédit immobilier qui ne serait pas exécuté ou mal exécuté. On pense aussi aux contrats, par exemple, de travaux qui sont mal exécutés, accidents dont les conséquences doivent être réparées. Enfin, le procès civil, ça concerne également les contentieux qui ont trait à des relations de travail ou encore des relations commerciales. Donc, généralement, ce type de contentieux commence par des démarches amiables, telles que l'envoi d'un courrier recommandé, une mise en demeure. Il est possible également d'entamer des démarches amiables via un conciliateur ou un médiateur de justice. Désormais, dans certaines procédures, c'est obligatoire, c'est un préalable obligatoire. Et quand ces démarches n'aboutissent pas, il est nécessaire donc d'initier une procédure devant les juridictions compétentes. Donc, le procès civil commence par la saisine du juge. Comment concrètement le juge est saisi? Donc, c'est une partie qu'on appelle le demandeur à l'action qui va assigner une autre partie, le défendeur, devant le tribunal compétent, afin de demander au juge de trancher sur le bien fondé de ses demandes. Concrètement, la procédure commence donc par le passage d'un huissier qui va notifier une assignation, donc un acte de procédure, à une personne afin de lui enjoindre de comparaître à une audience déterminée devant une juridiction désignée. L'assignation donc est délivrée au défendeur et c'est un acte essentiel puisqu'elle comporte également les demandes juridiques de ce demandeur.
Alors, je me permets de vous interrompre. Je reçois un courrier d'un huissier pour une audience. Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille chercher cette copie à l'étude ?
Ah oui, c'est absolument indispensable, puisque ce n'est qu'en possession effectivement de cet acte que vous pourrez savoir la raison pour laquelle une personne demande votre comparution devant le juge et la date d'audience. Et c'est avec cet acte-là que l'avocat que vous allez aller voir va pouvoir vous apporter un éclairage et vous donner les premiers conseils pour les suites de cette procédure. Donc, effectivement, la réponse est oui, il faut aller récupérer les actes dans l'étude de l'huissier qui vous a écrit.
Je le note.
Merci. Une fois le juge saisi, donc la partie adverse qui est assignée, l'affaire ne va pas être immédiatement plaidée. Même si l'assignation effectivement fixe une date d'audience, en procédure civile, on indique que la procédure doit se dérouler de manière contradictoire. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que, sauf si le défendeur effectivement ne comparaît pas à cette audience et l'affaire est effectivement plaidée, dans la plupart des procédures, les parties vont bénéficier de délais pour échanger l'ensemble de leurs arguments et pièces avant l'audience. C'est ce qu'on appelle l'exercice des droits de la défense. On parle généralement de la mise en place d'un calendrier de procédure, donc chacune des parties devra présenter ses arguments pour une audience ultérieure. Petit aparté sur le sujet, je vous rappelle, on vous l'a déjà dit, les personnes à faibles ressources peuvent bénéficier d'une prise en charge de leurs frais au titre de l'aide juridictionnelle. Ou dans certaines hypothèses, les frais peuvent être pris en charge par les assurances de protection juridique. Donc quand vous recevez une assignation, n'hésitez pas, soit contactez le tribunal pour voir si vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle, ou alors appelez l'ensemble de vos assurances, parce que parfois on a souscrit un contrat de protection juridique sans même le savoir, et ça c'est absolument indispensable. Revenons à notre sujet. Comme je vous le disais, chaque partie donc, va exposer ses arguments en fait et en droit, généralement via l'avocat, dans les procédures notamment où la présence de l'avocat est obligatoire. Et non seulement elles ont la possibilité donc, de présenter leurs arguments, mais elles ont surtout le devoir de le faire, puisque en procédure civile, il y a un autre principe, c'est qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Donc, sauf les cas spécifiques où le juge va ordonner une mesure d'instruction type expertise judiciaire, il incombe aux parties de prouver la véracité de leurs affirmations. Le juge n'en a pas moins un rôle central, puisque avant de prendre ses décisions, il veille au bon déroulement des échanges et au respect du principe du contradictoire qui, vous l'avez compris, est absolument essentiel.
Alors là, je me demande, et je pense que beaucoup de nos auditeurs se le demandent aussi, combien de temps prend un juge avant de rendre sa décision ? Ça semble toujours hyper long, les décisions de justice.
Alors effectivement, c'est une question qu'on nous pose très régulièrement, et c'est une question sur laquelle on ne peut pas réellement s'avancer, puisque en procédure, on a un autre principe, c'est que le procès civil, c'est la chose des parties. Cela signifie que tant que les parties ont des arguments à évoquer, les plaidoiries n'auront pas lieu. Les échanges de conclusions et pièces peuvent donc s'étaler sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années dans les dossiers les plus complexes. Donc on a généralement un ordre d'idées en fonction des types de dossiers et de types de procédures, mais on ne peut pas s'avancer sur une date précise de décision et de délai. Parce que ce sera qu'une fois que les parties sont d'accord pour clôturer le dossier, considérant qu'elles ont échangé l'ensemble de leurs arguments et pièces, que l'affaire sera fixée à une audience de plaidoirie, à l'issue de laquelle le juge ne va pas rendre sa décision immédiatement, donc on n'a pas forcément effectivement le délai. Alors il faut savoir quand même qu'en Bretagne, on a des délais qui sont relativement brefs, contrairement à d'autres juridictions, mais effectivement, ça peut s'étaler sur plusieurs mois et généralement sur quelques années. Comme je vous le disais, donc à l'issue de l'audience des plaidoiries, le juge va fixer donc cette date de délibéré qui va lui permettre à lui d'analyser l'ensemble des arguments des parties et d'étudier l'ensemble des pièces. Et c'est en considération de l'ensemble de ces éléments qu'il établira sa décision. Donc vous l'aurez compris, toute décision de justice qui est rendue dans le cadre d'un procès civil résulte toujours d'une collaboration accrue entre l'avocat et son client, le premier devant retranscrire juridiquement les agissements et faits qui lui sont rapportés par son client.
Merci, Maître Guénec.
Merci.
Chers chers auditeurs et auditrices, le quart d'heure du droit se poursuit et cette rubrique est faite pour vous. Les avocats du barreau de Lorient répondent à vos questions que vous pouvez poser par le mail question@radiobalise.com ou lorient@letelegram.com que vous retrouvez sur la page de l'émission sur notre site et sur le site du barreau de Lorient, barreaulorient.fr. Vous pouvez aussi contacter bien sûr l'édition du Télégramme. Géraldine, c'est le moment des questions.
Oui, trois questions aujourd'hui. Hein. Et la première, Maître Guénac, eh ben, je crois qu'on est vraiment dans votre champ de spécialité. C'est Maurice de Languidic qui nous dit « Un commercial est venu à mon domicile me démarcher pour la vente de fenêtres et m'a fait signer un papier que je n'ai pas vraiment eu le temps de lire. Peu après, j'ai reçu une facture avec un bon de commande que j'aurais signé. Que puis-je faire ?» Aidons Maurice.
Aidons Maurice, effectivement. Donc Maurice, le contrat que vous avez signé semble être un contrat dit conclu hors établissement. Dans cette hypothèse, puisque vous n'avez pas signé ce contrat sur les lieux de l'entreprise, mais chez vous, dans cette hypothèse, vous pouvez bénéficier au même titre que les contrats conclus à distance. Donc on pense par exemple au contrat en ligne. Vous bénéficiez donc d'un droit de rétractation de 14 jours. Donc pour changer d'avis et pour exercer ce droit de rétractation, il vous suffit d'adresser un courrier recommandé à l'entreprise pour indiquer que vous souhaitez effectivement mettre en œuvre votre droit de rétractation, ce qui vous permettra effectivement de bénéficier d'un remboursement et de, d'annuler effectivement cette vente. Étant précisé, et ça c'est un élément important parce qu'on me pose régulièrement la question, c'est que quand vous vous rendez au siège de l'entreprise ou dans un magasin, vous ne bénéficiez pas de ce droit de rétractation, mais c'est également le cas sur les foires et les salons.
Eh ben, c'est une bonne précision parce que j'allais vous le demander, donc c'est parfait. Alors on a une autre question, c'est celle de Christian Denbon qui nous dit « La commune dans laquelle j'habite a fait des travaux dans ma rue et a aménagé des places de parking à 50 cm de mes fenêtres. » Ce qui est quand même très, très, très proche. Et donc il ajoute « Du coup, quand un véhicule haut se gare, je n'ai plus de vue du tout et c'est fréquent. Et il y a aussi la nuisance sonore quand les gens prennent leur voiture en pleine nuit. Ai-je un recours possible pour faire supprimer ces places ?»
Alors, comme on vous l'a effectivement déjà indiqué, on ne peut pas forcément répondre au cas par cas sans avoir vu les éléments. Mais ce que je comprends effectivement de cette question, c'est que Christian semble subir des nuisances sonores et donc un trouble anormal du voisinage. Mais comme je vous l'expliquais, quand on souhaite effectivement engager une procédure, il faut qu'on rapporte la preuve de ce qu'on avance. Et donc, pour pouvoir démontrer l'existence de nuisances sonores, il convient généralement d'envisager donc une expertise, donc d'abord amiable, mais fréquemment une expertise judiciaire, afin de démontrer la réalité des nuisances, puis ensuite agir devant une juridiction pour tenter, si les nuisances sont effectivement établies, d'obtenir l'indemnisation. Étant précisé que dans le cas de Christian, il semble qu'on parle d'un parking public.
Je pense que c'est ça, effectivement.
Voilà. Et dans ce cas-là, il y a une autre notion qui intervient, c'est l'intérêt public. Et il incombera effectivement au juge de déterminer si non seulement on est sur un trouble du voisinage avéré, mais également voir si les troubles évoqués excèdent les inconvénients normaux que doivent supporter des riverains dans l'intérêt du public.
Il a peu de chances de réussir à faire supprimer les places, j'ai l'impression, Christian, à vous écouter. Dernière question, alors elle est un peu plus longue, c'est la question de Jean-Claude qui nous dit « Mes enfants à la résidence éloignée ont rompu toute relation avec moi depuis plus de 3 ans. Je voudrais savoir ce que je puis espérer pour qu'ils se manifestent suite à mes multiples sollicitations espacées dans le temps, tant par mail que par courrier ou SMS. De même, je n'ai plus de nouvelles de mes petits-enfants. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Comment procéder pour espérer un contact avec ma famille et comment éviter d'entendre peut-être que je les harcèle, qui est une notion de harcèlement ?
C'est effectivement difficile, une situation qu'on rencontre fréquemment maintenant, l'éloignement familial. Alors désormais, il existe des procédures qui sont de plus en plus suscitées pour permettre notamment aux grands-parents de pouvoir rencontrer leurs petits-enfants. Donc pour ça, effectivement, une procédure a été engagée devant le juge aux affaires familiales. Et si effectivement Jean-Claude souhaite éviter dans un premier temps cette procédure, mais tenter des démarches amiables, il est possible de saisir un médiateur familial. Et pour ce faire, il peut contacter soit la CAF, soit le tribunal pour demander la mise en place de cette médiation qui permettra peut-être une reprise du dialogue, un temps d'écoute, d'échange pour permettre d'apaiser d'éventuelles tensions préalablement à toute procédure.
Donc ce qu'il peut faire, c'est effectivement chercher à avoir contact avec ses petits-enfants, mais par contre avec ses enfants, si eux, ils veulent pas...
On ne peut pas les forcer.
Là, c'est des adultes consentants, comme on dit.
Exactement.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci à vous.
Merci, Maître Guénac. Fenech et bonne journée à vous. Merci Géraldine.
Merci.
La semaine prochaine, on se retrouve, nous parlerons plus précisément de Prud'Homme et on attend aussi vos questions pratiques hein, sur ce mail que je répète sans cesse, questions@radiobalise.com ou lorient@letelegram.com. Et vous pouvez aussi consulter l'annuaire des avocats du barreau de Lorient sur barreaulorient.fr. N'hésitez pas à les contacter, ils sont là pour vous défendre. Le quart d'heure du droit, c'est aussi en podcast sur le site radiobalise.com et tous les lundis dans les colonnes du Télégramme Lorient. Bonne semaine à tous, dans le droit chemin, bien entendu.